Voilà, chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette actualité du pape François. Nous commençons donc par l'Angélus. Depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape François, dimanche dernier, a offert une méditation sur l'évangile du jour. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Marc chapitre 7, verset 31-37. Il a invité chacun, notamment les prêtres, à se questionner sur sa manière d'écouter les autres. Alors François est revenu sur l'épisode de la liturgie du jour qui présente Jésus guérissant un sourd-muet. Ce qui est frappant dans le récit, c'est la manière dont le Seigneur accomplit ce signe miraculeux, a expliqué le Saint-Père. En effet, Jésus prend le sourd-muet à part, lui met les doigts dans les oreilles et touche sa langue avec sa salive, puis il lève les yeux au ciel et soupire et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Dans d'autres épisodes de guérison, Jésus ne fait pas autant de gestes, rappelle le Saint-Père. Alors pourquoi fait-il tout cela maintenant, alors qu'on lui a seulement demandé d'imposer sa main au malade ? Questionne-t-il, car être sourd-muet, répond François, a une valeur symbolique particulière et a quelque chose à nous dire à tous. En effet, nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, nous ne pouvons pas entendre, car il existe en fait une surdité intérieure que nous pouvons aujourd'hui demander à Jésus de toucher et de guérir. C'est pire que la surdité physique, c'est la surdité du cœur. Pris dans le quotidien, nous ne trouvons pas le temps de nous arrêter pour écouter ceux qui nous parlent, et nous risquons de devenir imperméables à tout et de ne pas faire de place à ceux qui ont besoin d'être écoutés. Je pense aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, à tous ceux qui n'ont pas tant besoin de paroles et de sermons, mais d'être écoutés. Demandons-nous comment se passe mon écoute. Est-ce que je me laisse toucher par la vie des gens? Est-ce que je sais consacrer du temps à mes proches? Alors cette dernière question est particulièrement valable pour les prêtres, a continué le pape François. Je le cite, le prêtre doit écouter les gens, ne pas être pressé, écouter et voir comment il peut les aider, mais après avoir écouté. Et nous tous, d'abord écouter, puis répondre. Une situation qui est également applicable à la vie de famille. Combien de fois les gens parlent sans écouter d'abord, répétant leurs refrains qui sont toujours les mêmes. Incapables d'écouter, nous disons toujours les mêmes choses. Pourtant, a continué l'évêque de Rome, la renaissance d'un dialogue vient souvent non pas des mots, mais du silence, du fait de ne pas s'accrocher, de recommencer patiemment à écouter l'autre. La guérison du cœur commence par l'écoute. Et il en va de même, bien sûr, pour le Seigneur. Nous faisons bien de l'inonder de questions, mais nous ferions mieux de commencer par l'écouter. Jésus le demande. Nous sommes chrétiens, a repris François, mais peut-être, parmi les milliers de mots que nous entendons chaque jour, nous ne trouvons pas quelques secondes pour laisser résonner en nous quelques mots de l'Évangile. Jésus est la parole. Si nous ne nous arrêtons pas pour l'écouter, il passe. Le médicament, a expliqué le successeur de Pierre, est chaque jour un peu de silence et d'écoute, un peu moins de paroles inutiles et un peu plus de paroles de Dieu. En conclusion, je cite le Saint-Père, « Entendons aujourd'hui, comme au jour de notre baptême, les paroles de Jésus, Ephata, ouvre-toi. Jésus, je souhaite m'ouvrir à ta parole, m'ouvrir à l'écoute. » A invité le pape François. Le pape François a adressé un message aux participants au 25e congrès mariologique marial international qui s'est ouvert ce 8 septembre à la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Une occasion pour François de rappeler que la Mère de Dieu peut aider l'humanité tout entière à trouver l'espérance et à surmonter les divisions. Oui, la Vierge Marie est un modèle à suivre en cette période où les épreuves que beaucoup traversent sont aggravées par l'épidémie. C'est ce que vient souligner le pape François dans ce message daté du 22 août dernier et paru ce 8 septembre. Marie, dans la beauté de la suite de l'Évangile et dans son service du bien commun de l'humanité et de la planète, devient elle-même la voix des sans-voix et nous enseigne l'écoute, a fait remarquer le pape François. Alors pendant 3 jours, les participants à ce 25e congrès mariologique marial international qui se déroule cette année en ligne, ces participants vont réfléchir sur le thème « Marie entre théologie et culture aujourd'hui ». Modèle, communication, perspective. La Mère de Dieu est en effet un repère en matière de dialogue entre les cultures. Comme l'explique le Saint-Père, elle est la mère de tous, sans distinction d'ethnie ou de nationalité. La figure de Marie devient ainsi le point de référence d'une culture capable de surmonter les barrières qui peuvent créer des divisions. Une culture de fraternité est ainsi favorisée par celle qui a mis au monde le premier-né d'une multitude de frères. Le Saint-Père a également évoqué le signe de consolation et d'espérance sûre qui a le nom, le visage et le cœur de Marie, femme, disciple, mère et amie. L'Esprit-Saint nous aide à aller vers elle tout en reconnaissant que les temps que nous vivons sont les temps de Marie. Enfin, Marie, mère du Verbe incarné, est la créature la plus intimement liée à la parole de Dieu. Elle parle et pense avec la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la parole de Dieu. Voilà ce qu'écrivait Benoît XVI dans son exhortation apostolique Verbum Domini. N'oublions pas que c'est précisément cette même parole qui nourrit la piété populaire, qui puise naturellement dans la Vierge, a poursuivi le Saint-Père. Marie devient ainsi pour chaque chrétien maîtresse de vie théologique à l'école de l'Esprit-Saint. Dans son message, le souverain pontife n'a pas manqué de remercier l'Académie pontificale mariale internationale pour son important travail à l'occasion de ce congrès, témoignant que la mariologie est une présence nécessaire du dialogue entre les cultures, capable de nourrir la fraternité et la paix. Nous en venons maintenant à l'audience générale, l'audience du mercredi. Le pape François qui poursuit donc son cycle de catéchèse. Alors cette catéchèse ce mercredi 8 septembre sur la lettre de saint Paul aux Galates. Le pape François il est revenu sur l'exhortation faite par Paul aux chrétiens de ne pas oublier la nouveauté de la révélation et sur les principes d'égalité déclarés par Paul, des expressions révolutionnaires selon le Saint-Père. Nous, chrétiens, considérons souvent comme acquise cette réalité d'être enfant de Dieu, a expliqué le souverain pontife, devant la foule de fidèles rassemblés salle Paul VI ce mercredi. Il est bon, au contraire, de toujours se rappeler avec reconnaissance le moment où nous le sommes devenus, c'est-à-dire le moment de notre baptême, pour vivre avec une conscience plus élevée le grand don reçu. En effet, a expliqué le pape François, une fois que la foi est survenue en Jésus-Christ, il se crée une condition radicalement nouvelle qui est introduite dans la filiation divine. Cette filiation dont parle Paul n'est plus la filiation générale qui comprend tous les hommes et toutes les femmes comme fils et filles de l'unique Créateur. La foi permet d'être des enfants de Dieu dans le Christ, a rappelé François. Par son incarnation, il est devenu notre frère, et par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père. Celui qui accueille le Christ dans la foi par le baptême est revêtu de lui et de la dignité filiale. Dans ses lettres, a rappelé François, Paul fait plusieurs fois référence au baptême. Pour lui, être baptisé équivaut à participer de manière effective et réelle au mystère de Jésus. Et dans la lettre aux Romains, il va même jusqu'à dire que dans le baptême, nous sommes morts avec le Christ et ensevelis avec lui pour vivre avec lui. Le baptême n'est pas seulement un rite extérieur, a continué le Saint-Père. Ceux qui le reçoivent sont transformés en profondeur, dans leur être plus intime, et ils possèdent une vie nouvelle, précisément celle qui leur permet de se tourner vers Dieu et de l'invoquer avec le nom Abba, Père. L'identité reçue par le baptême est supérieure à celle qui existe au niveau ethnico-religieux, rappelle l'apôtre, et aux différences liées au niveau social. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Ces expressions, a poursuivi le Saint-Père, possèdent une valeur révolutionnaire. Pour Paul, écrire aux Galates que dans le Christ, il n'y a ni juif ni grec, équivalait à une authentique subversion dans la sphère ethnico-religieuse. Car en vertu de son appartenance au peuple élu, le juif était privilégié par rapport aux païens. Et Paul lui-même l'affirme, a déclaré François. Il n'est donc pas surprenant que ce nouvel enseignement de l'apôtre puisse paraître hérétique. La deuxième égalité, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, ouvre également des perspectives bouleversantes, a expliqué le souverain pontife, car pour la société antique, la distinction entre esclaves et citoyens libres était vitale. Ces derniers, les citoyens libres, jouissaient de tous les droits en vertu de la loi, tandis qu'aux esclaves n'était même pas reconnue la dignité humaine. Enfin, l'égalité dans le Christ surmonte la différence sociale entre les deux sexes, établissant une égalité entre l'homme et la femme qui était révolutionnaire à l'époque et qui doit être réaffirmée encore aujourd'hui. Selon Paul, a ajouté le Saint-Père, l'unité profonde existe entre tous les baptisés, quelles que soient leurs conditions, parce que chacun d'eux, dans le Christ, est une créature nouvelle. En conclusion de cette audience du mercredi, la vocation des chrétiens est de rendre concret et évident l'appel à l'unité de tout le genre humain, car tout ce qui exacerbe les différences entre les personnes, provoquant souvent des discriminations, tout cela, devant Dieu, n'a plus aucune consistance grâce au salut réalisé dans le Christ. Ce qui compte, a terminé François, c'est la foi qui agit en suivant le chemin de l'unité indiqué par l'Esprit-Saint. Notre responsabilité est de marcher résolument sur cette voie. Et nous terminons cette actualité sur les vœux du Saint-Père aux Éthiopiens, à quelques jours de la fête du Nouvel An, cette fête du Nouvel An qui sera donc célébrée ce samedi 11 septembre 2021. Le pape François qui a exprimé sa préoccupation pour la situation humanitaire du pays. Donc le pape a formulé ses souhaits à l'adresse des Éthiopiens à l'occasion de l'audience générale de ce mercredi 8 septembre dans la salle Paul VI du Vatican. Je cite le Saint-Père, « Le 11 septembre prochain sera célébré le Nouvel An en Éthiopie. J'adresse au peuple éthiopien mon salut le plus cordial et affectueux, et de façon particulière pour ceux qui souffrent à cause du conflit en cours et de la grave situation humanitaire qu'il a provoquée. Que ce soit un temps de fraternité et de solidarité au cours duquel écouter le désir commun de paix. Oui, l'Éthiopie traverse la phase la plus dramatique de son histoire récente, titrait déjà l'agence Vaticanae Fides le 20 août dernier. L'agence missionnaire internationale a expliqué comment la situation dans le Tigré s'est propagée. La guerre du Tigré, qui a éclaté en novembre 2020, a depuis longtemps dépassé les frontières de la province du nord de l'Éthiopie et s'est étendue à d'autres régions du pays, aggravant le drame de la population civile. Du point de vue humanitaire, Fides citait des sources internationales. Le dernier rapport des Nations Unies sur la crise humanitaire dans le Tigré indique que seule une fraction de l'aide humanitaire nécessaire pour répondre aux besoins croissants parvient au Tigré, où la situation reste imprévisible et volatile, alors que le mouvement des forces du Tigré vers les régions habitées par les Amara et les Afar se poursuit. Quelque 2,4 millions de personnes ont besoin d'aide dans l'état régional somalien du pays, alors que des rapports font état d'une malnutrition croissante et de pénurie d'eau imminente. Alors le front de libération du Tigré, qui a chassé les forces éthiopiennes et érythréennes du Tigré, a encore expliqué Fidesz, est passé à l'offensive et a annoncé qu'il avait conclu des accords avec d'autres groupes armés. L'un d'entre eux semble être le principal groupe rebelle de la région éthiopienne d'Oromia, qui a prévenu qu'il pourrait couper une autoroute majeure reliant l'Éthiopie au Kenya, compromettant ainsi le commerce avec Nairobi. Le conflit entre dans une phase encore plus dure. L'Éthiopie traverse la phase la plus dramatique de son histoire récente, a confié une source locale à l'agence Fidesz. Les drones iraniens sont entrés en action et bombardent les troupes tigrées, tandis que les autorités centrales arment les civils. Les Tigrines sont donc confrontées à plusieurs milices, mais le fait qu'elles aient pénétré en territoire Amhara met le premier ministre Abiy Ahmed en difficulté. Celui-ci, d'ailleurs, recherche bien sûr un soutien international, notamment pour résoudre les différends avec le Soudan voisin, pour lesquels le président turc Erdogan a proposé sa médiation. Lors de sa visite en Turquie, en plus de recevoir l'engagement du président turc de rechercher une solution au conflit du Tigré et aux différends avec le Soudan, Abiy a signé un accord militaire avec Ankara, a précisé la même source. Voilà, ainsi se termine cette actualité du pape. Je vous retrouve bien sûr jeudi prochain. Au revoir à tous.